Ce matin, je voudrais aborder avec vous un thème que j'ai intitulé « Vivre une vie réfléchie ». Vivre une vie réfléchie. On n'en a qu'une des vies. Et on a tous, me semble-t-il, à cœur de ne pas la rater. Vous savez que la vie est courte. Ces dernières semaines, nous avons fait un certain nombre d'enterrements, des cérémonies. Et à chaque fois, on a l'occasion de dire et de faire réfléchir les gens, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve devant un cercueil, on se dit, un jour, ce sera mon tour. La vie est tellement courte, ça passe tellement vite. Où est-ce que j'en suis dans mon parcours personnel? André Malraux a dit ceci, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Pour certains, la vie, c'est une pièce de théâtre, c'est un cirque. Pour d'autres, c'est un puzzle, une énigme qu'il s'agit de résoudre. Certains artistes la comparent à une symphonie, une danse. Quelqu'un a même dit, la vie est un manège. On monte, on descend, mais on ne fait que tourner en rond. C'est une vision bien pessimiste. Alors votre façon de voir la vie, bien sûr, va conditionner votre vie. Si pour vous la vie est une fête, alors votre priorité sera de vous amuser. Si vous pensez que la vie est une course, vous serez toujours en train de courir, vous serez toujours à la bourre. Et si pour vous la vie est une bataille, alors peut-être que le plus important pour vous, c'est de gagner. Quoi qu'il en soit, notre façon de penser la vie a une influence sur ce que nous en ferons. Alors la Bible a une approche et une perspective bien différente. Celle d'une vie posée, celle d'une vie réfléchie, celle d'une vie qui vous entraîne quelque part. Parce que, au fond, tout ce que Dieu fait est réfléchi, pensé, agencé soigneusement. Il a une idée, il a un projet et il a un plan pour chacune de nos vies. Et ça, c'est rassurant. Je n'ai pas besoin d'inventer une vie, mais je peux placer ma main dans celle du Seigneur, ma confiance dans celle du Seigneur, qui saura m'orienter et m'accompagner dans mon parcours. Alors l'histoire des Israélites va nous servir de support ce matin pour nous aider à vivre et à comprendre comment vivre d'une manière réfléchie. Exode au chapitre 12 au verset 31, je lis dans la version second 21, on va se servir de quelques textes qui vont venir soutenir ce que nous allons dire ce matin. La nuit même, Exode 12, 31, la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » Au verset 37, « Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000. Sans compter les enfants, une grande foule de gens de toutes sortes, montèrent avec eux. » Alors dans cette histoire, en toile de fond pour appuyer notre propos, on a Moïse qui, lui, savait où Dieu voulait l'emmener. Il savait où il partait. Mais d'autres autour de lui, et il y en avait beaucoup, ne savaient pas du tout vers où ils allaient. Et alors qu'est-ce qu'il se passe quand c'est comme ça? Quand on ne sait pas où on va, à la première difficulté, on se fatigue. Et quand on ne sait pas où on en est et où on va, on est beaucoup plus fatigué que d'habitude. On se fatigue plus vite. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu es fatigué. Tu deviens parfois amer et même négatif. Tu subis la vie plutôt que de la vivre. Alors on essaie de voir et de suivre un petit peu ce texte. Dans le chapitre 14 et au verset 10, il nous est dit « Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir. Nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Voilà ce qui se passe. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va. On est sortis d'Égypte, on se trouve dans le désert. Et combien de fois nous avons les uns et les autres aussi vécu des déserts. Et la réponse de Dieu est claire. Au chapitre 14, au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. » Alors ils se remettent en route, ils traversent la mer Rouge et ils arrivent dans un deuxième désert. Au début de ce voyage, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et je peux vous assurer, pour avoir traversé le désert du Sahara, au début, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et au bout d'un moment, il y en a beaucoup moins, parce que les difficultés se présentent. La fatigue est là, la transpiration, on ne peut pas se laver, on ne peut pas prendre des douches régulièrement. C'est un souci et c'est un problème quand on est dans la promiscuité. Au début, c'est l'euphorie. Les Alsaciens disent « Reise fever », c'est-à-dire la fièvre du voyage, traduit littéralement. Mais au bout d'un moment, le moral est au plus bas. Et au verset 2 du chapitre 16, on lit « Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse ». Chapitre 16, verset 3. « Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, que nous mangions du pain à volonté ?» Ils disent « Pourquoi ?» Parce qu'ils sont perdus. Et quand vous êtes perdu, l'expérience que nous avons faite avec Evelyne remonte à 42 ans en arrière, mais on s'en souvient comme si c'était hier. Quand vous êtes perdu, vous êtes perdu. Vous ne voyez que du sable, du sable, du sable, toujours du sable, et vous tournez en rond et vous ne savez plus où vous êtes. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS. J'étais censé être le navigateur et avec les jumelles, on essayait de repérer des boîtes, des pierres, des piquets. Mais il n'y avait rien, parce qu'on avait vécu une tempête de sable. Et c'est un sentiment terrible que de se savoir perdu. Et la seule chose qu'on a pu faire, c'est prier. Et si vous n'avez jamais prié de votre vie, je peux vous assurer que dans ces moments-là, vous priez. Vous priez. Alors, notre collègue, le pasteur Jean Le Pennec, qui est pasteur en région parisienne, dit ceci, « Lorsque je suis perdu, mon premier réflexe, c'est d'accuser Dieu de ne pas avoir de plan. » C'est ce qu'ils font. Quand vous perdez le contrôle, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez pas ce qui est en train de vous arriver. Vous dites « Je suis perdu parce que tu n'as pas de plan. » Mais la vérité, c'est que Dieu a un plan. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est sécurisant. Nous avons un Dieu dans le ciel, un Père qui nous aime et qui a prévu et qui a des projets et des plans pour chacun d'entre nous. Chapitre 16, verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je prends en charge et nous avons un Père dans le ciel qui prend en charge nos vies, qui nous accompagne, qui oriente notre vie, qui pourvoit nos besoins, tant il nous aime. Alors pour vivre une vie réfléchie, il est nécessaire de se poser les bonnes questions. Et moi j'en vois au moins trois. Trois questions. Où, pour qui et comment. Alors commençons par le commencement. Où? Dans cette interrogation où, on peut avoir deux aspects. Le premier, d'où est-ce que je viens? C'est une référence au passé. Et un deuxième aspect, où est-ce que je vais? C'est par rapport à notre futur. Dans le passé, je constate ici avec le peuple d'Israël qu'il y a du mensonge. Les Israélites regrettent d'avoir quitté l'Égypte. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ils ont passé un mois et demi dans le désert et tout ce qu'ils retiennent de leur séjour en Égypte, où ils ont quand même passé plus de 400 ans, c'est qu'ils avaient de la viande et du pain à volonté. C'est tout ce qu'ils gardent comme souvenir de ce séjour qui a duré plus de 4 siècles. C'est incroyable. Parce que 6 semaines auparavant, les sages-femmes avaient pour ordre d'assassiner les bébés. Tous les jours, il y avait des cris dans les maisons, des larmes, des pleurs dans les chaumières. Ils ont oublié. Ils ont oublié le harcèlement, ils ont oublié l'oppression, ils ont oublié l'intimidation, l'humiliation, les pressions exercées par les chefs de chantier alors qu'ils étaient en train de faire des briques et de faire avancer les constructions monumentales. Ils ont oublié. Et plus tard dans l'histoire, Jésus a un entretien avec les pharisiens, les religieux de cette époque-là. Et au chapitre 8, au verset 33 de Jean, Jésus prend les pharisiens à partie. Il les interpelle. Et les pharisiens disent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Impressionnant. C'est incroyable. Alors je me tourne vers moi et puis je me dis, est-ce que toi aussi, tu serais amnésique au point d'oublier d'où tu viens, d'où le Seigneur t'a tiré, ce qu'il a fait pour toi. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais tous les jours, je bénis Dieu pour m'avoir sauvé, parce que je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Avec les débuts chaotiques que j'ai eus, avec l'enfance que j'ai eue, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Je bénis Dieu pour cela. Et je vous encourage à dire merci au Seigneur, à faire monter vers lui votre reconnaissance, de vous avoir sauvé, de vous avoir gardé, de vous avoir introduit dans sa famille et de vous avoir confié des responsabilités. On a la mémoire courte, mes amis. Rappelons-nous toujours d'où nous venons, d'où Dieu nous a sortis. Et ce matin, je voudrais te dire, rappelle-toi d'où tu viens. La semaine dernière, on s'est payé avec Evelyne un petit extra, ça ne nous arrive pas souvent, mais de temps en temps, on se prend par la main, puis on se dit, tiens, on irait bien faire un petit cinéma. Alors on est allé regarder La Ch'ti de famille, peut-être que certains l'ont déjà vu, le film de Danny Boone, qui incarne un garçon du Nord, du Ch'nord, qui réussit brillamment sa carrière, mais qui finit par oublier d'où il vient. C'est un film très touchant, et ça nous a émus. Et au bout d'un moment, sa mère va le rappeler à l'ordre, le cœur brisé, elle vient vers lui, elle lui dit, « Tu as oublié d'où tu viens. » Alors je ne vous raconte pas le film pour que vous puissiez aller le voir. « Tu as oublié d'où tu viens. » Et lui, c'est comme s'il avait renié toute son enfance, toute son histoire et la famille d'où il vient, d'où il venait. N'oublie pas d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors, rappelle-toi d'où tu viens, mais deuxièmement, regarde où tu vas. Au chapitre 3, verset 8, Dieu dit, « Je suis descendu pour te délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Dieu a un plan, Dieu a une route, il a une voie. Et ce qu'il fait est pensé, réfléchi, coordonné. Il a prévu quelque chose pour toi. Il y a quelques années, j'ai écrit une chanson avec un couplet qui dit ceci, « Dieu souverain, tu n'es jamais lointain. Tu connais tous nos besoins. Tu as prévu pour chacun un chemin. Nos vies sont entre tes mains. » Sauf que Dieu ne nous dit pas tout. Nous, on aime bien ce qui est carré, ficelé, bien droit, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Vous le savez très bien. Dieu nous a donné un cerveau pour que nous puissions réfléchir. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 14, il y a une histoire que raconte Jésus, c'est une parabole, dans laquelle il dit « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donne 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. » Alors ces trois hommes ont chacun reçu un sac d'argent, plusieurs, 5 pour le premier, 3 pour le deuxième et 1 pour le dernier. Et les trois n'ont reçu aucune consigne particulière. Aucune consigne particulière. Nous, nous aimons bien avoir les consignes, les règles, les normes. La France est champion en matière de normes et de réglementations. Ça change tout le temps. C'est des normes, des règles qu'il faut appliquer. On a eu cette semaine une délégation du ministère de la Santé pour contrôler notre service de distribution des colis alimentaires. Ils ont passé plusieurs heures, ils ont passé tout au peigne fin en nous citant les règles, les normes, etc. Et on a eu bien sûr le souci de se mettre en conformité à la réglementation. Nous, on aime bien ce qui est carré. Et peut-être que ce matin, je parle à quelqu'un qui se dit, mais Seigneur, dis-moi, fais telles études, ou prends tel travail, ou bien épouse tel mari, ou va habiter à tel endroit. On aime bien que les choses soient dictées. Seigneur, tu me dis le truc, et puis moi je le fais, et puis c'est réglé, quoi. Hein? Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu opère. Pourquoi ? Parce que, comme le dit mon collègue le pasteur Jean Le Pennec, ici-bas, si l'on savait où l'on va, on irait sans lui. C'est vrai ou pas ? On n'aurait pas besoin de Dieu. Si on savait tout à l'avance, tout est programmé, eh bien, on n'aurait pas besoin de Dieu. Et Dieu sait qu'on irait sans lui et qu'on se ferait du mal. C'est surtout ça qu'il voudrait nous éviter. Au chapitre 3 du livre de l'Exode, c'est vraiment instructif. Le texte nous dit « Un pays où coule le lait et le miel, c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Alors, en regardant le texte de plus près, on s'aperçoit que ce sont des peuples nomades. C'est intéressant. Donc, des gens qui se déplacent, des gens qui bougent au gré avec les troupeaux, au gré des saisons de pluie, lorsqu'il y a de l'herbe, etc., sont des bédouins. Donc, des gens toujours en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Théologiquement, on a parfois un peu de mal, mais ça veut dire que le plan de Dieu pour nos vies, il est évolutif. Ça évolue. J'ai besoin de réfléchir à cela. Nous, on aimerait bien avoir des frontières précises, claires, un cadre fixe. Mais quand on met la main dans l'engrenage, quand on donne sa confiance au Seigneur, on ne sait pas où ça va nous mener. Pas du tout, personne. Jamais je n'ai pensé, il y a des années en arrière, que je serais devant vous à vous parler ce matin. Mais Dieu est Dieu. Et lorsqu'on le laisse faire dans notre vie, il a un plan, il a des projets et il nous emmène aussi loin que nous le voulons bien. On aimerait avoir des frontières, hélas. Le Seigneur nous entraîne dans un plan qui est évolutif. Je vais vous donner un exemple. Si Dieu te disait « Marie-toi avec telle personne », Alors toi, tu dis, ben, c'est bon, c'est réglé, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Sauf que, au bout d'un certain temps, il y a des conflits. Et là, tu ouvres tout grand tes yeux, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Pourtant, c'est Dieu qui l'a dit. Comment se fait-il qu'il y ait des conflits ? C'est Dieu qui a voulu qu'on soit ensemble. Eh bien, tout simplement parce que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. La personne va changer. Son caractère va évoluer. Vous allez traverser des épreuves, des temps de crise. Vous allez connaître des tempêtes. Les défauts de l'autre vont apparaître. Certains vont disparaître. Alléluia. Mais d'autres vont s'amplifier. Et il va falloir s'épouser. Les gens pensent parfois, et on le dit dans la préparation au mariage, que nous sommes faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas vrai. Nous avons à nous faire l'un à l'autre. Et ça, c'est bien différent. Je vois que je prêche à des convertis. Oui, parce que rien n'est jamais acquis. La réalité, c'est que Dieu a prévu que tu construises ton mariage. Et la question que nous posons souvent en préparant les mariages, que voulez-vous construire ensemble ? Parce que c'est ça, un mariage. Dieu a prévu que tu construises ton mariage avec ton conjoint. Et tu auras le pays, écoute bien, tu auras le pays que tu bâtis avec lui. Oui. Tu auras le pays que tu bâtis avec lui. À ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont fréquenter les médiums, les cartomancières, les diseurs ou les diseuses de bonne aventure. Pour qu'on leur dise ce qui va leur arriver. Et certains chrétiens sont tentés de faire la même chose en allant consulter tel prophète ou tel homme de Dieu pour s'entendre dire ce qui va leur arriver. Alors le voyant, il va vous donner les numéros gagnants du loto. Mais la Bible dit qu'il n'y ait personne chez vous qui consulte ces gens-là. Ça ne vient pas de Dieu. Et je vous encourage surtout à ne pas aller voir ces gens-là. Ce n'est pas bon. Alors vivre une vie réfléchie nécessite vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Non pas pourquoi je vis, mais peut-être pour qui je vis. Pour qui je vis. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voici les deux grands commandements. C'est Jésus qui le dit. Voici les deux raisons pour lesquelles je vis. Tu peux vivre. Tu vis pour Dieu et tu vis pour les autres. Et alors, si tu vis pour Dieu et si tu vis pour les autres, ta vie aura un sens. Et deviendra vraiment une vie réfléchie. Posons-nous la question, qui est ma raison de vivre ? Et puis, je termine avec le comment vivre de façon réfléchie, dans Exode, au chapitre 16, verset 14. Le texte nous dit ici, une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et dirent l'un à l'autre, se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est ? Manou en hébreu. En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente, c'est ce que firent les Israélites. Alors ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins, et chacun avait de quoi se nourrir. Et Dieu leur a dit de ne pas prendre plus qu'il n'en faut, et surtout de ne pas stocker. Et certains l'ont quand même fait, ils ont constaté qu'il y a eu des vers dans la manne. Il s'y mit des vers et cela devint infect, dit le texte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'est pas un accumulateur. Dieu n'est pas un accumulateur de bénédictions. Et de cette façon-là, il s'attend à ce que nous aussi, nous ne devenions pas des accumulateurs. J'accumule des formations, j'accumule ceci, j'accumule cela, j'accumule des bénédictions. Non. Le texte du Notre Père dira, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Il ne dit pas, donne-nous aujourd'hui le pain d'hier. Dans les colos, on chante ce chant, le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. En fait, mais c'est important ce que je vous dis là, frères et sœurs, parce que ça nous aide à mener une vie réfléchie. Et nous voulons aller en profondeur avec la série que nous venons d'avoir sur la sagesse, mais nous voulons poursuivre parce que si, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vie forte, une vie solide. Je crois que des temps difficiles nous attendent. Le Seigneur nous demande de nous préparer. Et l'un des moyens de nous préparer, c'est d'être ancré dans une relation forte avec Dieu et une relation forte avec sa parole. Nous voulons servir un Dieu qui soit conforme au Dieu de la parole. En fait, Dieu met une date de péremption sur tous les aspects de notre vie. Vous savez ce que c'est que la date de péremption? La DLC, date limite de consommation. Hein? Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous remarquez que votre visage évolue. Vous comprenez qu'il y a une date de péremption. D'accord? La voiture a une date de péremption, l'appartement, la maison, tout ici-bas a une date de péremption. Ton travail a une date de péremption. Aime-le, ton travail, aujourd'hui. Aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine. Aime ton travail aujourd'hui, parce que tu ne sais pas si ta boîte demain va être rachetée par les Chinois. T'en sais rien, mais aime-le aujourd'hui. Vivons aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, ça génère du stress, toutes ces questions de la vie. Mais ça génère du stress si tu ne comprends pas que Dieu pourvoira pour demain. Et moi, je crois à un Dieu qui pourvoira demain. Je veux me réjouir aujourd'hui dans le Seigneur parce que aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Demain, dit le Seigneur, aura soin de lui-même. Mais c'est aujourd'hui que je suis appelé à le remercier, à le bénir et à me contenter de ce que j'ai. Jésus dira, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Alors, si ce sont des choses que vous bâtissez, frères et sœurs, vous ne serez pas bien si vous voulez accumuler la manne. Si c'est un tas de manne que vous voulez, vous ne serez pas heureux. Parce que notre destinée, ce n'est pas accumuler, mais c'est aider les autres à entrer dans leur destinée. Vous ne trouvez pas que c'est un bon projet ? Notre frère Alexandre nous a parlé tout à l'heure de rêve. Mon rêve, c'est de libérer le rêve des autres. La question, ce n'est pas comment est-ce que je peux faire pour stocker davantage, mais comment faire pour que chacun puisse manger. Comment faire pour que chaque enfant à l'épi ici, chaque ado, chaque jeune, chaque couple, chaque famille, chaque papy et chaque mamie puisse grandir avec Dieu. C'est notre projet. Faire des disciples de Jésus-Christ pour sa gloire. Parce que nous sommes appelés à être une lettre, être un témoignage, être une publicité pour Dieu, pour le Seigneur, au travers de la manière de vivre, une façon de vivre réfléchis. Que Dieu nous aide à vivre cela. Prions ensemble. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous nous perdions quelque part dans un hasard, mais tu voudrais que nous conformions nos vies à ta parole. Ta parole est la vérité, elle nous oriente, elle nous conduit. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci pour tes conseils, merci pour ta manière de nous parler également au travers de ta parole. Merci pour l'expérience des Israélites. Merci pour tout ce qui est écrit dans ta parole. Tu l'as voulu pour notre instruction. Tu as voulu pour que nous apprenions quelque chose. Alors merci Seigneur de nous apprendre, de nous aider à nous conformer et puis à vivre une vie qui soit une vie réfléchie, une vie qui ait du sens, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie. Une vie qui donne envie aussi à beaucoup d'autres. Une vie qui soit contagieuse pour que d'autres aussi puissent trouver le chemin vers toi et te connaître comme nous te connaissons. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Je vous remercie.